Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le jeudi 27 novembre 2025 et vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. On commence avec le journal. Les titres de ce jeudi, gigantesque incendie à Hong Kong, les victimes se comptent par dizaines et des centaines de personnes sont toujours en danger. Des tirs à côté de la Maison Blanche ciblant des militaires de la garde nationale, un suspect a été interpellé. Coup d'état en Guinée-Bissau, le processus électoral est suspendu, les frontières fermées et des tirs entendus. Et enfin en Australie, accord historique selon les Verts avec le gouvernement fédéral. On ouvre ce journal avec le gigantesque incendie qui frappe un complexe résidentiel à Hong Kong. Les victimes se comptent par dizaines, des centaines de personnes sont portées disparues, tandis que certains habitants sont toujours coincés dans leur tour d'habitation. Pour l'heure, on ignore encore les causes de cet incendie, le plus meurtrier depuis 1996. Sur place, les précisions de Nicolas Ronca pour Radio France Internationale.
Des habitants de Hong Kong qui regardent impuissants les tours du quartier de Tai Po consommées par les flammes alors que s'échappe du haut des gratte-ciels une épaisse fumée noire. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Plus de 700 pompiers sont à pied d'œuvre déployés sur site afin de limiter le nombre de victimes. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi ce mercredi dans le complexe résidentiel de Wang Fu Court, 8 immeubles de 31 étages qui accueillent plus de 4600 résidents. Un certain nombre d'entre eux étaient encore coincés dans les tours lorsque la nuit est tombée à Hong Kong. Ces immeubles étaient presque intégralement recouverts de gigantesques échafaudages en bambou, des installations caractéristiques utilisées depuis des siècles dans la ville et qui ont joué un rôle central dans la construction rapide d'Hong Kong. Mais ces échafaudages sont aussi particulièrement inflammables. Leur rôle n'est pas encore avéré dans l'incendie, mais les autorités locales estiment que cela a pu contribuer à la propagation du feu aux autres bâtiments.
On prend à présent la direction des États-Unis où deux militaires de la garde nationale ont été visés par des tirs à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche. Les deux hommes annoncés morts initialement sont dans un état critique à la veille des fêtes de Thanksgiving. Le suspect, blessé lui aussi, a été interpellé. On ignore pour l'heure l'identité ou les motivations de l'auteur des tirs. Donald Trump a promis que ce suspect, qu'il a qualifié d'animal, paiera un prix très élevé. Fin de citation. La Guinée-Bissau en pleine incertitude après un coup d'État. L'armée annonce avoir pris le contrôle total du pays après avoir arrêté le président Umaro Sissoko Embalo 3 jours après l'élection présidentielle et alors qu'on attendait encore le résultat. Toutes les frontières sont fermées pour une durée indéterminée. On écoute le porte-parole de l'armée, le général Denis Nkana.
The High Military Command for the Re-establishment of National and Public Order decides to immediately depose the President of the Republic, to suspend until new orders all of the institutions of the Republic of Guinea-Bissau, to suspend until new orders the activities of all media outlets, to immediately suspend the current electoral process, to close the land border, sea and national airspace.
Retour sur cette journée avec l'envoyé spécial de RFI, Eva Massi.
La tension reste palpable ici à Bissau. Les rues sont bloquées, parfois même barricadées. Plus aucune circulation et des militaires partout, à quasiment chaque coin de rue. Pendant l'après-midi, en périphérie de la capitale, des militaires arrêtaient les voitures qui essayaient de quitter la ville et surveillaient de très près les abords de la Commission nationale des élections, dont les locaux étaient entièrement encerclés. Dans le centre-ville, les commerces sont fermés dans la précipitation. Ceux qui n'ont pas réussi à rentrer chez eux se sont réfugiés dans des restaurants où les patrons ont aussitôt tiré les rideaux. Et dehors, presque plus de taxis, habituellement très utilisés ici. Alors on voyait des gens faire du stop pour essayer de rentrer à temps avant le couvre-feu, entrée en vigueur à 19h, heure locale. Plus personne ne quitte son téléphone, certains cherchent à joindre leurs proches, d'autres suivent en continu les informations. Mais justement, très peu d'informations circulent puisque l'ensemble des médias a reçu l'ordre de suspendre les programmes jusqu'à nouvel ordre. À Radio Solmansi, une radio locale, les journalistes ont rapporté que des hommes en uniforme avaient fait irruption dans les studios et exigé que tout le personnel quitte les lieux. L'espace aérien et les frontières sont fermées et l'incertitude règne désormais sur la suite des événements.
Voilà ce qu'on pouvait dire à propos du coup d'État en Guinée-Bissau. On ignore encore si d'autres personnes ont été arrêtées en même temps que le président Oumaro Sissoko Embalo. Après des mois de spéculation, le Premier ministre Anthony Albanese est parvenu à un accord avec les Verts pour réformer en profondeur l'Environment Protection and Biodiversity Conservation Act, la loi phare de protection de l'environnement en Australie. Ce vaste ensemble de réformes devrait être adopté aujourd'hui au Sénat. Parmi les mesures prévues, la création d'une nouvelle agence nationale de protection de l'environnement et la mise en place de normes environnementales nationales. Ces réformes étaient attendues depuis longtemps, c'est ce qu'admet Anthony Albanese.
More than 5 years after Professor Graham Samuel handed down his independent review into the nation's 25-year-old environmental laws that were widely acknowledged as not being fit for purpose, the government's Environment Protection Reform Bill will be passed by the Senate today.
Les Verts se disent fiers de voir les lois environnementales australiennes réellement renforcées, disent-ils, saluant ce qu'ils appellent un accord historique. On écoute la chef des écologistes, Larissa Waters.
What we've been able to secure from the government after strong and lengthy negotiations is a package that improves our environmental laws. It takes us forward with new protections for native forests. It takes us forward with protection from land clearing. And importantly, it stops coal and gas from being approved within 30 days, which is what the government's original bill proposed.
En Australie, toujours l'inflation plus élevée que prévue, les prix à la consommation ont augmenté de près de 4% sur 12 mois, un résultat supérieur aux attentes. Pour de nombreux économistes, cette inflation persistante montre que le taux directeur ne freine pas suffisamment l'économie, allant même jusqu'à prévoir une nouvelle hausse en 2026. Le ministre de l'Éducation tente de calmer le jeu. Interrogé par nos confrères de Channel 7, Jason Clarke assure que cette dernière hausse de l'inflation peut facilement s'expliquer.
The end of energy rebates from the states. And if you look at the forecast from the Reserve Bank or from Treasury, they're continuing to expect inflation to moderate over the year ahead. But we're under no illusions here, Nat. We know that Aussies are doing it tough. That's why the sort of actions that we're taking as a government are so important, whether it's tax cuts or whether it's the interest rates, whether it's the money we're investing in Medicare to make it easier to see a doctor for free.
Des dizaines de milliers de résidents toujours privés d'électricité après une violente tempête qui a traversé la Nouvelle-Galles du Sud, causant la mort d'un homme frappé par la chute d'un arbre sur la Central Coast. Au moins 120 000 foyers demeurent hors réseau après des rafales allant jusqu'à 119 km/h. Le commissaire adjoint des services d'urgence de l'État, Sean Cairns, indique que plus de 1000 appels à l'aide ont été passés rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, et tandis que les intempéries ont arraché de nombreux toits dans le centre-ouest de l'État.
These storms started in the central west of the state and have moved eastward. We've seen impacts to metropolitan Sydney, the Hunter, the Central Coast and the Illawarra. As a result of these storms, we have responded to over 1,000 incidents. These incidents relate mainly to trees down, taking down power lines and also damaging roofs.
Et pour la météo de ce jeudi après-midi, nuageux à Perth, comptait 22 degrés. Il y a des averses à Adélaïde, 21 degrés. Même temps à Melbourne, seulement 20 degrés. Des averses à Hobart, 14 petits degrés. Grand soleil à Canberra ainsi qu'à Sydney, 25 et 31 degrés respectivement. Des averses à Brisbane, il fait 34 degrés. 33 à Cairns, s'avère également, et 33 degrés à Darwin. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir écouté, messieurs, dames. Surtout, restez sur SBS French. Le programme continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Tout de suite, c'est le journal des sports. Il est signé Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute avec du football et la Ligue des champions. La très belle victoire du Paris Saint-Germain face aux Anglais de Tottenham sur le score de 5-3. On vous fait vivre le coup de sifflet final avec Christophe Diramzian pour RFI.
Et c'est terminé ici au Parc des Princes sur cette victoire. 5-3 du Paris Saint-Germain face à Tottenham. Tout n'a pas été parfait, mais eh bien l'essentiel est là. Après sa défaite face au Bayern Munich, Paris a retrouvé le succès. Il y avait quand même eu l'ouverture du score de Richarlison, le Brésilien, à la 35e minute sur un service de Colomoigny, l'ancien Parisien. Derrière, Vitinha avait une première fois égalisé sur une magnifique frappe qui a touché la barre transversale avant de rentrer dans le but de Tottenham. Ça faisait un partout à la pause. Et puis le début de seconde période a démarré sur les chapeaux de roue avec un but de Colomoigny à la 50e minute. Égalisation encore de Vitinha. Derrière, but de Fabian Ruiz pour le 3-2 du Paris Saint-Germain. But de Pacho ensuite, l'équatorien, à la 65e minute. Réduction du score de Colomoigny qui n'est pas venu pour rien. L'ancien du PSG, un doublé, une passe décisive. Et enfin, un pénalty pour Vitinha à la 76e minute. Ça fait donc triplé pour le Portugais. Et victoire 5-3, il faut noter également le carton rouge de Lucas Hernandez pour un coup de coude évitable. Mais voilà, je vous disais, 4e victoire en 5 matchs pour le PSG. Et le contrat est rempli. Il parie qui se dirige tout droit vers le top 8 et une qualification directe pour les 8e de finale de la Ligue des Champions.
Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui bat les Anglais de Tottenham sur le score de 5-3. Les autres résultats de cette journée, notamment le très beau carton plein d'Mbappé avec le Real Madrid. Victor Missistrano.
Un quadruplé pour permettre à des merengues chahutés de s'imposer au Pirée. 4-3 face à l'Olympiakos. Mbappé est désormais le meilleur buteur et de loin avec 9 réalisations en 5 matchs. Sa performance, c'est l'un des nombreux faits marquants de cette soirée, tout comme la déroute de Liverpool. Battu 4-1 par le PSV Eindhoven, on ne reconnaît plus les Reds, rouges de honte devant leur public. Mo Salah et sa bande qui restaient déjà sur 2 défaites en première ligue, 3-0. 3-0, c'est le score en faveur de l'Atalanta Bergame à Francfort, avec un but du meilleur joueur africain de l'année 2024, le Nigérian Ademola Lookman.
Missistrano, donc, pour ses résultats auparavant, et bien quelques autres résultats. L'Union Saint-Gilloise a battu le Galatasaray sur le score de 1-0. Le Benfica bat l'Ajax sur le score de 2-0. Marseille bat Newcastle sur le score de 2-1. Chelsea a battu le Barça sur le score de 3-0. Monaco fait match nul face à Paphos sur le score de 2-2. Et à noter la défaite également de Club Brugge face au Sporting de Lisbonne sur le score de 3-0. Au classement, c'est Arsenal, les Londoniens, Arsenal qui sont en tête avec 15 points devant le Paris Saint-Germain, deuxième avec 12 points, le Bayern est troisième avec 12 points également, l'Inter quatrième et le Real Madrid cinquième. En bas de classement, c'est Villarreal qui est 34e, Kairat qui est 35e et l'Ajax d'Amsterdam qui est dernier, 36e de ce tableau donc de la Ligue des Champions. Allez, on parle de cyclisme maintenant. L'Australien Mark Renshaw qui a aussi été en tant que commentateur sur SBS pour le Tour de France et pour les épreuves de cyclisme en Australie. Et bien Mark Renshaw, le très grand spécialiste du sprint, je vous rappelle, il a été présent pour une grande partie des 35 victoires de Mark Cavendish. Mark Renshaw était anciennement dans l'équipe XDS, et bien il a signé avec l'équipe Decathlon, l'équipe française. Et oui, Mark Renshaw qui deviendra donc l'un des leaders, un des managers, un des coachs de cette équipe. On l'écoute.
Yeah, personally, look, they came to me early last year with a proposal around what the team changes were going to look like. There's some big changes going on at Decathlon, CMA, CGM. So they announced 2 new sponsors, obviously CMA, CGM coming on as a co-sponsor. I think one of the biggest privately owned French companies, which is huge news for the team. And then Decathlon taking over the license of the team. So they're the 2 big moves. For me, the big incentive was to work with a pure top-class sprinter and lead-out train. something that Astana has had in the past. With XDS coming on this season and the big improvement, it was a huge decision. But ultimately, the chance to work with Olaf Koy, all the sprint train, and how motivated the team are to achieve sprint success was the determining factor.
Marc Renshaw, allez, pour conclure ce journal des sports, eh bien, on va parler d'olympisme et de la flamme olympique qui a quitté la Grèce. C'était hier, la flamme olympique pour les Jeux olympiques d'hiver, bien entendu, de Milan et Cortina d'Ampezzo. Elle a été allumée à Olympie hier et ça marque le début donc de 10 semaines de voyage jusqu'à Milan. Une torche qui a dû être allumée dans un stade fermé au lieu du stade traditionnel ouvert à cause des intempéries. On écoute Kirsty Coventry du Comité international olympique.
In today's world, sadly, we have a lot of division and a lot of conflicts. And for me, this is reason why our Olympic movement is even more important, because it allows for there to be a platform that unifies and is a symbol of peace.
Voilà, on finit ce journal des sports sur de l'olympisme. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Taille des costards, me donne des noms d'oiseaux qui m'appellent gentiment ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
C'était Bertrand Belin avec sa chanson La Béatitude qui vient de l'album What, sorti en 2025. C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire sur l'économie en Australie. Nicolas Perpich et Christophe Mallet abordent deux thèmes, la disparition de Menulog et la montée du stress locatif.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Allez, on va parler d'économie avec notre spécialiste de la question, notre ami Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Victor.
Alors cette semaine, on a deux sujets très intéressants. Le premier, j'aimerais qu'on parle, c'est la livraison de repas à domicile. Alors on connaît tous les big players de ce système, mais il y en a un qui d'ailleurs avait des stars avec elle en publicité, hein, notamment Snoop Doggy Dogg, mais Menulog a fermé. Et ça, c'est un problème parce que ça peut creuser un espèce de duopoly. Et on sait que dans les supermarchés, dans plein d'autres types de retail, un duopoly, c'est jamais bon.
C'est jamais bon, tout à fait. Et là, ouais, donc Menulog avait déjà annoncé qu'ils allaient fermer. Et là, dans les heures avant qu'ils ferment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une annonce pour que tous leurs clients, ils encourageaient leurs clients à adopter Uber Eats. Et ils ont dit, tous les restaurants qui étaient avec Menulog, ils sont maintenant sur Uber Eats. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de downloader l'app de Uber Eats. Donc, c'était vraiment un accord entre les deux qui est... on voit pas ça souvent, mais c'est intéressant parce que ça laisse seulement donc Uber Eats et DoorDash. Et donc ça, c'était un marché nouveau, c'était un marché, on appelle ça un disruptive economy, mais on voit que comme dans d'autres marchés, en fin de compte, c'est que les grands qui survivent et petit à petit les autres disparaissent. Et les voilà, donc on voit que maintenant il y a Uber Eats qui est vraiment assez dominant et il y a DoorDash. Et Uber Eats qui devient encore plus puissant maintenant, puisqu'ils viennent d'adopter, ou ils essayent d'adopter tous les clients de Menulog.
Alors ce qui est intéressant, tout ça, c'est que c'est vrai que c'était une économie qui a bien marché pendant longtemps, mais c'est vrai que la perte des acteurs avait débuté avec Deliveroo, qui est toujours très présent en Europe. Deliveroo, vous l'avez en France, vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez au UK, vous avez Deliveroo. En Australie, ils n'avaient pas pu survivre. Et là, c'est Menulog qui peut pas survivre. Ça veut dire quoi, donc?
Voilà. Ça veut dire pour le marché que, c'est un peu comme, tu en as parlé avant avec les supermarchés. Ça veut dire que quand il y a deux grandes compagnies, ça veut dire que eux, ils peuvent dire un peu, ils ont plus de puissance, ils peuvent décider les prix plus facilement, ils peuvent décider ce qu'ils payent leurs conducteurs un peu plus facilement. Donc ça pose des problèmes pour les clients qui pourraient payer plus, mais aussi bien sûr pour les employés, les conducteurs de ces voitures qui font déjà pas payer énormément, il faut dire. Et on voit en fait là maintenant qu'il y a le Transport Workers Union qui essaye d'avoir un accord avec justement Uber Eats et DoorDash pour payer un minimum à ses conducteurs. Et bah, pas juste les gens dans les voitures, mais aussi les gens sur les bicyclettes ou les mobylettes aussi, pour avoir une assurance, ils sont bien payés malgré ces duopolies. Bon, et puis on ne sait pas du tout ce qui va se passer si Uber Eats devient complètement dominant. C'est possible qu'ils vont finir par être les seuls. Et là, bien sûr, toutes ces choses-là, ça deviendrait encore plus grave.
C'est marrant parce que c'est vraiment une spécificité du business à l'australienne. On a l'impression que l'économie australienne, d'une façon ou d'une autre, doit se former autour d'un duopoly. On l'a vu hein, dans les supermarchés, les compagnies aériennes. Enfin, donc, quand on t'a creusé, il y a quand même beaucoup des duopolies.
Pas sûr pourquoi. Peut-être que ça fait partie de la psychologie européenne.
Ouais, bizarre.
Peut-être parce qu'ils aiment bien avoir confiance en deux personnes, en une grande compagnie. Les supermarchés, c'est classique avec
Coles. Il y a des compagnies aériennes.
Mais il y a quand même IGA.
Il y a Aldi, il y a tout ça, mais
il y a Aldi aussi. Aldi, et ça prend. Ça, voilà, en fait, c'est. Quand il y a une duopoly comme ça, ça peut être seulement brisé quand on voit quelqu'un qui vient, on dirait, qui vient de l'extérieur, crépitant déjà, bien établi comme Aldi ou comme Virgin Airlines. En fait.
Oui, tout à fait. Allez, on parle d'un autre sujet avec vous, Nicolas, cette semaine. Louer un appartement ou une maison, c'est très difficile en ville. C'est encore plus difficile quand on est dans les régions.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça n'a pas toujours été évident. On pense, bon, on va à la campagne, on va dans les régions, c'est moins cher. Pendant longtemps, c'était le cas, mais c'est pas nécessairement le cas partout encore. Et là, on a vu la 11e étude justement sur cette question d'abordabilité pour les locataires. C'est fait par une organisation qui s'appelle SGS Economics and Planning. Et à la base, c'est l'idée que si dans une maison, une famille ou un couple ou autre paye ou dépense plus que 30% de leur salaire ensemble, combiné, pour payer la location, ça veut dire qu'ils sont en situation de stress immobilier. Et donc, 30%, c'est quand même un pourcentage important d'un salaire. Et selon cette étude, donc, dans la plupart des capitales autour de l'Australie, ils sont pas très abordables, donc moyennement pas abordables. Et les pires des villes sont à chaque bout du pays, donc il y a Sydney et il y a aussi Perth. Et les autres villes comme Melbourne et Adélaïde, apparemment, ils se sont à peu près stabilisés, ce qui est une bonne nouvelle, mais quand même, ça ne veut pas dire que c'est facile là-bas non plus, c'est juste qu'ils se sont stabilisés à un niveau où c'est déjà pas très abordable. Mais vraiment, c'est dans les régions qu'on voit que c'est le plus difficile vraiment maintenant pour louer depuis l'année dernière. Et selon cette étude, ça serait à part à cause du fait que des gens avaient déménagé des grandes villes vers les régions, à la campagne pendant la pandémie, et ça crée plus de pression sur le marché immobilier. Mais aussi ces gens, ils sont venus avec des salaires plus hauts, donc ils étaient prêts à payer plus pour une maison de location. Et donc ça a ajouté un peu à la pression. Et on voit que les gens qui sont les plus frappés, c'est comme d'habitude les gens les plus pauvres, les étudiants, les retraités. Et c'est la même chose dans les régions. Et donc on voit que des régions en Australie qui sont les moins abordables, c'est en Nouvelle-Galles du Sud, et tout autour de Sydney. Donc ça, c'est très difficile. Et là, on voit que souvent, dans ces endroits-là, les loyers forment une plus grande proportion des salaires, donc bien plus que 30%. Donc c'est là que les gens, ils souffrent vraiment. Et c'est aussi un peu dans ces endroits où on a vu, par exemple, les inondations terrible dans le nord de Nouvelle-Galles du Sud, où la reconstruction des maisons est très, très lente. Donc ça n'aide vraiment pas du tout.
Absolument, et c'est une situation qui est très compliquée. Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
On savait que c'était fini, on est quand même parti dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus jolis, se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit, reste dans le ciel et ne tombe jamais. Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences?
C'était la chanteuse Marguerite avec ce titre Les Avions de l'album Grandir, sorti en 2025. Allez, à présent, rencontre avec Marie Chrétien, la directrice de Culture Plus, une fondation à but non lucratif créée il y a 5 ans. Elle nous parle des événements culturels en France et en Australie de Culture Plus.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir de retrouver sur les ondes de Radio SBS Marie Chrétien. Bonjour et bienvenue à vous.
Merci Jean-Noël, merci de m'accueillir.
Peut-être d'abord, présentez-vous et parlez-nous de Culture Plus et le prix Éloquence.
Je suis la directrice de Culture Plus. C'est une fondation à but non lucratif que j'ai créée il y a 5 ans. Et nous organisons des événements culturels, aussi bien en France qu'en Australie, avec à chaque fois une mise en valeur des artistes des deux pays et bien sûr de nos biens culturels. Donc nos deux événements phares sont les Eloquence Art Prize et les soirées courts-métrages.
Et c'est quoi exactement le Eloquence Art Prize?
Alors déjà, c'est le Eloquence Art Prize en Australie, mais c'est le concours d'éloquence en France. Et en fait, c'est des challenges pour étudiants en université, donc principalement des étudiants en histoire de l'art, où deux artistes, l'un français, l'autre australien, sont comparés. Donc ce sont des challenges de prise de parole en public et ils récompensent la meilleure talk de 7 minutes sur un sujet précis. Donc cette année, qui est l'année de l'UNOC et des océans, ben, ça a été « Sauvons nos océans ». Alors, en Australie, c'est un challenge national. Il y a 7 universités sur 5 États et plus de 50 étudiants qui participent. Et en France, le concours est ouvert aux étudiants de l'École du Louvre.
Et alors, les deux concours sont prestigieux?
Effectivement, puisque bah, les étudiants ils performent en Australie à la Art Gallery of New South Wales, à la NGV à Melbourne ou à la NGA à Canberra, ou à Paris, à l'ambassade d'Australie, et devant un jury composé de personnalités. Donc cette année, par exemple, le concours était présidé par la directrice du Museum of Contemporary Art, avec l'attaché culturel de l'ambassade, la CEO de la Biennale de Ciné ou l'éditrice en chef de Volt Art Magazine dans le jury. Et à Paris, en juin dernier, le concours était présidé par l'ambassadrice de l'Australie elle-même et avec la directrice de l'École du Louvre et la senior curateur Océania du musée Quai Branly pour le jury.
Et les prix offerts, Marie, sont incroyables, d'après ce que je comprends.
Ben, je pense, hein, Jean-Noël, hein, parce que le premier prix, quand même, c'est un voyage dans l'autre pays, donc de plusieurs semaines, hein, 3, 4, 5 semaines, pour visiter ces musées et rencontrer ces professionnels. Mais aussi, il y a des mentoring sessions. Et pour les Australiens, il y a des cours de français avec les alliances françaises australiennes. Il y a des stages grâce à des partenariats avec ISFAR ou Volt Art Magazine. Et puis, quand ils sont à Paris, l'Australien gagnant, il y a une immersion à l'École du Louvre de 3 semaines et un séjour d'un mois donc à Paris au Récollet, qui est un centre international d'accueil pour artistes. En bref, en gros, c'est des opportunités uniques pour ces jeunes, des opportunités que l'argent ne peut pas acheter. Hein.
Absolument. Et parlons de ces soirées courts-métrages de cette année, Save Our Oceans.
Elles sont sur le même thème que le Eloquence Art Prize. Donc cette année, c'est Sauvons nos océans. Et ce sont des soirées plus grand public qui sont donc ouvertes à tous et qui sont gratuites et qui présentent des courts-métrages qui sont réalisés par des artistes français et des artistes australiens, donc sur le même thème qui est Seven Oceans. Donc ces courts-métrages, en fait, c'est des courts-métrages ou c'est même des films qui sont réalisés par les artistes.
Et ça dure combien de temps ?
Alors, les soirées elles-mêmes sont... la projection des films, en fait, elle dure une heure à peu près. Il y a, en entrée de chaque film, il y a une petite introduction qui est faite pour donner le contexte du film. Et après, sont suivis par des tables rondes où on a des personnalités intéressantes, hein, puisque cette année, à Ciné, on a par exemple l'artiste Laté Tomopo, qui est une artiste reconnue internationale. On a Jennifer Turpin, qui est également très, très reconnue. À Melbourne, on va avoir la chair de Climarte, qui est une organisation qui est à la frontière entre l'art et l'activisme, en fait, écologique. Ce que je veux dire, c'est que ces soirées, donc il y a des soirées qui vont être cette année organisées à Melbourne, donc ça, ce sera le 27 novembre. Et en plus, il y a une troisième soirée qui va être organisée donc à Canberra. Et enfin, il y aura une soirée à Paris en juin 2026. Et en fait, j'espère qu'il y aura plus parce que, en fait, on a visionné plus de 50 films. On a sélectionné les 12 meilleurs avec beaucoup de peine. Hein. Donc, c'est les plus provocateurs, les plus beaux, les plus justes, mais tous faisant avancer la cause de l'océan. Et on est vraiment trop contents de les faire partager, de les faire découvrir. Et ils sont tellement intéressants, importants, émouvants qu'on ne veut pas s'arrêter là. On est en train de réfléchir à des projections dans des lycées australiens l'année prochaine.
Et Marie, quel est l'objectif au travers de ces événements ?
Alors, comme je le disais en introduction, hein, d'abord et surtout, c'est faire connaître des artistes français, alors côté australien, et des artistes australiens côté français, et donc de promouvoir les liens culturels qui existent entre nos deux pays. Alors, les Eloquence Art Prize sont financés en partie par l'ambassade de France ici et l'ambassade d'Australie en France. Les soirées courts-métrages sont financées cette année par le consulat général d'Australie et seront inaugurées par le consul général adjoint Monsieur Sami Bouakaz à Sydney et Madame la consule Paul Ignacio à Melbourne. Et puis, bien sûr, hein, l'objectif, c'est de montrer l'importance et le rôle que l'art peut jouer et joue dans notre société sur des thèmes aussi essentiels et actuels que la préservation de l'environnement. Mais au-delà de ça, au travers du Eloquence Art Prize, l'objectif, c'est d'offrir une opportunité unique à des jeunes, à des étudiants, d'enrichir leur CV, de développer leur aptitude à parler en public et de leur faire rencontrer des professionnels du monde de l'art. Parce que, en gros, c'est de leur offrir des opportunités. Ils sont souvent en fin d'études, en termes d'études, ils sont en PhD, master, troisième année, honors ou troisième année. Donc, ce n'est pas des débutants. Et l'idée, c'est de leur faire, de leur donner des opportunités professionnelles derrière. Et puis, dernier objectif, comme on dit en anglais, last but not least, très important, c'est d'offrir à l'audience un bon moment.
A good
time, exactement. Et j'espère que les gens vont venir nombreux et qui vont passer, effectivement, ça devrait être des soirées très intéressantes et fun. Alors, côté éloquence, les étudiants sont présélectionnés. C'est le meilleur de chaque université qui accède à la finale. Et donc, nous avons la crème de la crème pour des talks super intéressantes et bien faites. Et c'est un vrai régal. Et c'est aussi un vrai régal de voir les universités qui veulent absolument que leur champion gagne. Alors, on reçoit des coups de fil de temps en temps. Voilà, pas toujours facile à gérer. Voilà. Et en tout cas, la finale de 2025 qui a eu lieu en septembre, ça a été un vrai succès. Les finales permettent d'aborder des points de vue très différents. Et donc, les soirées se terminent par des tables rondes. Et donc, c'est toujours des soirées intéressantes. Et surtout, ce que je voudrais terminer pour dire, c'est que non seulement donc, c'est des soirées intéressantes, mais en plus, on demande toujours son avis à l'audience en faisant voter l'audience sur le meilleur étudiant ou le meilleur artiste avec un prix de l'audience en jeu.
Donc, tout le monde participe.
Voilà. Et voilà.
On profite de l'occasion pour parler peut-être des projets de l'année prochaine?
L'année prochaine, le thème, il n'est pas encore complètement déterminé, mais ce sera autour de l'environnement, un thème qui est malheureusement actuel, un thème également aussi bien présent dans la culture aborigène que dans nos cultures occidentales.
Marie Chrétien, directrice de Culture Plus, merci à vous.
Merci beaucoup Jean-Noël de m'avoir reçu et bonne journée à vous.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On a passé du temps à chercher dans nos vies un peu de couleur de soleil quand le ciel était gris. Le monde de demain,
le monde de demain.
À nous de changer de décor. Sans peur, on est bien plus fort, plus fort.
Le monde de demain, la dernière chanson des Enfoirés sortie en 2025 dans l'album Au pays des Enfoirés. Discussion avec Pierre-André Humbert, l'ambassadeur de France en Australie. Il a parlé à Christophe Mallet sur ce qu'est le Grand Paris Express, ce qu'il peut apprendre à Melbourne et aux villes en pleine croissance.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est toujours un plaisir de parler à notre cher ambassadeur Pierre-André Humbert, ici pour parler de mobilité à la française, une expérience en tout cas à Melbourne. Bonjour déjà.
Bonjour, moi c'est aussi un grand plaisir de vous retrouver.
Cette mobilité à la française avec le projet du Grand Paris qui aujourd'hui a cette exposition ici à Melbourne, qu'est-ce que ça peut apporter à chaque Australien et à chaque Melbournien ?
Aujourd'hui, avec le Grand Paris Express, on réinvente Paris pour les 100 prochaines années. C'est le plus gros projet qu'il y ait eu depuis la construction du métro parisien en 1900.
Pas de pression ?
Aucune pression, mais comme tous les grands travaux, on peut, puisqu'on a un peu d'avance, on peut affirmer qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais qu'à la fin, le planning, l'organisation, le fait de délivrer ces 68 nouvelles gares, d'offrir à 2 millions de personnes la possibilité de voyager chaque jour en plus de ce qui existait déjà, et ben c'est un plus pour les habitants. Ça transforme en fait complètement la ville. C'est pas juste de la connectivité. Ça crée des îlots de quels on va pouvoir développer des jobs. Ça crée aussi la possibilité de connecter plus facilement les familles, le travail. C'est l'ensemble de la vie qui en est transformée. Et donc, il était intéressant de montrer cette expérience parce que ce qui est particulier avec Paris, c'est qu'on a construit 200 km de tunnels, 68 nouvelles station en pleine zone dense, dans une des zones les plus denses du monde, pendant que les gens travaillaient et vivaient au-dessus. Et ça, c'est une performance technique. Et ça doit inspirer, et c'est aussi pour cela qu'on a des entreprises qui avaient déjà un immense savoir-faire, qui ont encore plus développé leur savoir-faire, et qui participent en Australie aux différents projets de transport, et qui peuvent montrer, j'allais dire preuve à l'appui, à la fois qu'on est capable de délivrer, de le faire dans les temps, et d'apporter une plus-value pour l'ensemble des habitants qui est tout à fait considérable.
Avant de passer à autre chose, mais l'impact des Jeux Olympiques aussi a sûrement été flagrant dans le besoin de mobilité, le besoin de se transformer comme une ville comme Paris.
Dans une ville comme Paris, l'approche des Jeux Olympiques, forcément, on met un peu de pression sur la réalisation des équipements de transport. Mais le fond de l'affaire, c'est que c'est pour les Parisiens d'abord, et c'est pour les habitants. Parce que ce transport du quotidien, c'est pas le transport à grande vitesse qui relie tout le territoire. C'est le transport d'un bassin de vie qui regroupe 12 millions de personnes et qui, aujourd'hui, sont de plus en plus obligés d'aller habiter très très loin d'où ils travaillent, avec des heures et des heures dans les embouteillages. Bah, vous changez la qualité de vie des personnes quand vous arrivez à connecter toutes ces zones et que vous créez la possibilité d'avoir des pôles de développement dans ces villes. Et donc, ça change la vie au quotidien. Et c'est ça qu'est le transport. Le transport dont on parle aujourd'hui, c'est le transport du quotidien.
Quand on pense à Melbourne, on sait que c'est une ville qui va subir une explosion démographique. On parle de 8 à 9 millions d'habitants dans quelques années. D'où l'importance de bien gérer cette explosion, et notamment, faut faire bouger les gens. Faut que les gens travaillent, faut que les gens vivent.
On voit très vite que sans mobilité décarbonée, alors il n'y a pas une recette unique. Il y a plein de recettes différentes. Il y a beaucoup d'exemples dans les villes. En revanche, on sait, c'est que sans grand système de transport public, les villes sont congestionnées. c'est des heures en voiture, ou alors c'est renoncer à aller dans le centre-ville pour beaucoup de gens, et vous divisez la population qui ne peut plus accéder partout. Et donc là, c'est un enjeu clé de citoyenneté, c'est un enjeu clé de développement économique, et c'est un enjeu clé du mieux vivre ensemble.
Et ça, c'est important à Melbourne, c'est important dans d'autres villes en Australie, à peu près partout dans le monde, mais si on se focalise sur l'Australie, et là, les entreprises françaises ont un vrai enjeu à amener.
Alors, les entreprises françaises sont parmi les meilleures du monde dans la construction des tunnels, dans le système de signalisation, des automatismes, la construction des trains. On a aujourd'hui tous nos grands joyaux industriels et techniques qui sont présents en Australie. Et ils travaillent déjà, je veux dire, de Brisbane à Sydney, à Melbourne, à Perth, à Adélaïde également. Donc en fait, elles sont déjà présentes parce que ce pays a un besoin d'infrastructures, comme tous les grands pays qui se développent et qui connaissent une forte croissance, et donc faut l'accompagner. Et bah ici, les gens sont heureux d'apporter l'expertise française et puis de créer des jobs localement.
Et en tant qu'ambassadeur pour la France en Australie, c'est pas mal.
Ah bah c'est la relation franco-australienne que j'aime beaucoup. C'est-à-dire c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est du développement pour nos entreprises, c'est de la création d'emplois pour l'Australie et à la fin ça fait des beaux projets pour tous les Australiens.
Eh bien, on va vous laisser en profiter. Merci.
Merci beaucoup, Christophe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Voilà pour l'ambassadeur de France en Australie. Au même endroit, Christophe Mallet a pu s'entretenir également avec la chef du service économie de l'ambassade. Interview.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On est avec Inès Abderrahmane du bureau économique donc de l'ambassade française en Australie, basée à Sydney. Bonjour Inès.
Bonjour Christophe.
Ça fait un moment qu'on se parle, hein, vous et moi. Vous êtes très présente dans l'image de la France, surtout cette image technologique, parce que l'économie, la technologie aujourd'hui, c'est ce que la France veut vendre, veut exposer à tous les Australiens.
Effectivement, avec plus de 800 filiales d'entreprises françaises en Australie, je pense qu'on peut dire qu'on est très présent et que le secteur économique occupe de fait une place prépondérante de toute façon, de manière générale dans le monde et particulièrement en Australie aujourd'hui. Donc, on est fiers d'avoir une telle présence et on espère justement la développer encore plus via des partenariats économiques bilatéraux avec nos collègues australiens.
On sent que la France a pris un virage de dynamisme dans les 4, 5, 6 dernières années. Moi, c'est 20 ans que je suis en Australie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer?
Écoutez, je le confirme et je suis ravie que vous l'ayez constaté puisque effectivement, c'est un travail du quotidien mené à la fois par les entreprises qui se développent et qui réussissent à obtenir des contrats, mais aussi via l'action de ce qu'on appelle la Team France Business, donc toutes les institutions qui travaillent justement à ce développement des entreprises françaises et de leur marché en Australie. Donc oui, on continue à travailler, on continue à développer notre présence et ça donne des résultats avec des beaux contrats pour nos entreprises dans les différents secteurs de l'économie qui sont concernés.
Quand on parle d'économie en Australie, il faut indéniablement aussi parler de la structure d'un pays, parce que c'est un pays qui est fédéral, donc des économies qui sont gérées au niveau fédéral. C'est pas forcément ce qui se passe en France. Hein. C'est différent de faire du business avec un pays qui est fédéralisé comme celui-ci.
C'est tout à fait différent, en effet, et ça implique de fait d'engager des discussions à différents niveaux avec les États fédérés, qui ont eux-mêmes leurs propres capacités décisionnelles et budgétaires, plus avec l'échelon fédéral, bien entendu. Donc, effectivement, il faut être présent partout, il faut parler à différentes autorités. Et ça peut aussi parfois donner lieu à une nécessité, je dirais, de s'adapter en fait en fonction du contexte local auquel on fait face.
Donc ça, c'est une certaine agilité que vous devez avoir sur le terrain et relier, je suppose, avec tous vos services à Paris et tout ce qui concerne l'économie française à l'étranger.
Oui, exactement. On essaie de justement faire comprendre aux autorités à Paris la particularité de la découpe, entre guillemets, du pays par État fédéré et le fait justement de s'adresser à différents niveaux, différents échelons. Et de la même manière, c'est le cas pour les entreprises ici qui doivent être présentes partout, discuter avec différentes autorités, s'adapter et faire remonter effectivement des différents mécanismes qui opèrent en fonction des États à leur siège parisien.
Alors, ce matin, à cette conférence sur le Grand Paris, on a beaucoup parlé de technologie, mais il faut parler d'économie aussi. C'est très, très, très important pour la France, en général, d'exporter cette technologie qui peut vraiment rendre service à tous les Australiens au jour le jour.
Oui, c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui avec cette exposition, c'est le fait que la France a des capacités, a une expertise en matière de transport, d'infrastructure, mais aussi de fait d'innovation et de technologie, comme vous le soulignez, et qu'on est prêt justement à adresser les différents défis auxquels fait face l'Australie en matière de transport, et qu'on est prêt à proposer cette expertise dans le cadre d'un dialogue, bien sûr, et d'une coopération renforcée. On n'est pas là pour s'imposer, plutôt pour proposer, et on espère, de fait, que cette démarche marchera dans ce sens.
Il y a un point, on avait déjà échangé, vous et moi, là-dessus. Je ne pense pas que les Australiens se rendent compte à quel point la France est présente dans leur journée. Une journée lambda d'un Australien lambda, du moment où la radio s'allume avec un logiciel, je le sais, il est français, jusqu'au moment où la télévision s'éteint le soir, où on lit un livre. La France est présente à d'énormes nombres de points dans la vie d'un Australien normal.
Alors, je pense que les Australiens s'en rendent compte, mais peut-être pour une petite partie de l'économie, entre guillemets, donc sur la partie qui est liée en fait au luxe, à la gastronomie, aussi.
Ça va au-delà du croissant. Hein.
Et voilà. Et nous, ce qu'on aimerait faire, et justement, c'est notre rôle au service économique, c'est de montrer que ça va au-delà et que notre présence, elle est vraiment effectivement plus large et qu'elle elle touche à d'autres secteurs, transport, infrastructure, santé, et que sais-je, encore, on en a plein, bien entendu, et c'est notre travail aujourd'hui au service économique de montrer aux Australiens qu'ils peuvent nous aimer pour nos croissants et notre champagne, mais qu'ils peuvent aussi nous aimer pour nos trains et notre système de santé, etc.
Et les avions qui arrivent à l'heure, etc.
Non, effectivement, j'oublie le secteur aérospatial, mais du coup, il y a effectivement beaucoup d'autres secteurs sur lesquels on intervient, on est présent, et c'est très bien de le rappeler, en effet.
Et cette expérience du Grand Paris, elle peut changer quoi dans la vie d'un Australien à Melbourne? Aujourd'hui, on est à Melbourne, cette expo, elle est à Melbourne. On va parler pour les gens qui habitent à Melbourne, ça peut changer quoi?
Ça change de fait, c'est une amélioration, je pense, en termes de mobilité. C'est le fait aujourd'hui de penser le transport différemment, de l'envisager de manière plus décarbonée, de faciliter et de rendre les trajets beaucoup plus adaptés et flexibles pour les Australiens, beaucoup plus rapides aussi si besoin. Donc voilà, c'est peut-être de penser justement la transition entre la voiture ou l'avion, même si plus tard on a une ligne à grande vitesse, vers des modes de transport en fait plus décarbonés et qui de fait font gagner aussi pas mal de temps.
C'est vrai, et juste pour conclure, on parle énormément de la voiture électrique, mais dans le transport, il n'y a pas que la voiture électrique et il y a tellement d'autres façons de bouger.
Effectivement, le bus, le tram, le train, le métro, il y en a énormément et c'est tout ça combiné en fait qui va permettre en fait aux Australiens de se déplacer mieux et plus efficacement, je pense, ouais.
On a un peu du pain sur la planche.
Ouais, mais on est là pour ça de toute façon, donc c'est parfait.
Merci.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Il est 13h et presque 58 minutes sur Radio SBS, c'est l'heure du rappel des titres. Gigantesque incendie à Hong Kong, les victimes se comptent par dizaines et des centaines de personnes sont toujours en danger. 3 personnes ont été interpellées mais on ignore encore les causes du départ de feu. Des tirs à côté de la Maison Blanche ciblant des militaires de la garde nationale, un suspect blessé dans la fusillade a été interpellé. Les 2 militaires d'abord annoncés morts sont actuellement dans un état critique. Coup d'État en Guinée-Bissau, le processus électoral est suspendu, les frontières fermées et des tirs entendus. L'armée a pris le contrôle entier du pays et retient en otage le président sortant, 3 jours après l'élection présidentielle où les résultats étaient attendus. Et enfin, en Australie, accord historique selon les Verts avec le gouvernement fédéral. Après des mois de spéculation, Anthony Albanese s'est mis d'accord avec les écologistes pour réformer en profondeur la loi phare de protection de l'environnement en Australie. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french ou sur toutes les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est samedi, même fréquence, même heure. Ce sera également avec moi. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Bonne journée, messieurs, dames. À samedi. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.